Voici Robert Pilote.
11h28 minutes, on va parler un petit peu de politique avec d'ailleurs le candidat dans le comté de Champlain pour Québec solidaire qui arrive en studio. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Je vais te demander de patienter un peu parce que le gars qui est avec moi maintenant mérite que je prenne 2 minutes, okay, pour tenter de comprendre son ouvrage. Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est notre démêlé du jeudi. Bonjour.
Bonjour, Robert.
Qui a lancé son livre hier, écoute, en grande pompe. T'as bien fait ça. Il y avait du monde. Je t'ai suivi sur... t'as fait un Facebook Live, hein?
Ah oui, t'as regardé ça, toi?
Ben, pas au complet, là. J'écoute, il y avait quand même District 31 en même temps, là.
Ouais, ben oui, hein. Faut avoir le sens des priorités.
Oui. Non, mais c'est parce que c'est pas évident. Tu sais, puis moi, je t'aime gros, là. Normalement, c'est parce que je t'aime beaucoup qu'on va se parler maintenant. On s'entend-tu que le sujet que tu abordes maintenant, que tu présentes à la population, c'est pas à la portée de tout le monde, là. C'est pas tout le monde qui a de l'intérêt pour, et je cite le titre de ton ouvrage, « Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange ». Tu étayes pas une théorie, mais quand même, tu y vas avec certaines hypothèses. Peux-tu nous expliquer, en des termes clairs et précis, là où tu t'en vas avec tes skis?
Alors, écoute, Robert, donc, quand tu dis que ce n'est pas à la portée de tout le monde, je te dirais, c'est vrai, mais ça devrait l'être. C'est-à-dire que ça paraît toujours très, très loin, très, très, très distant, ces accords-là, ces traités-là, qu'on se dit, c'est signé dans des sommets à l'autre bout de la planète, puis c'est vrai d'ailleurs, puis là, on se dit, puis c'est des gros pavés de règlements, 6000 pages de règlements, dans des langues juridiques extrêmement compliquées, on comprend rien là-dessus. On dit toujours, on va laisser ça aux experts, mais là, il faut se demander à qui profite le crime. Parce que ces accords-là, oui, c'est très, très abstrait, en apparence du moins, puis ça paraît très, très complexe. Mais quand je dis à qui profite le crime, c'est que pendant ce temps-là, qui profite du fait que les populations s'intéressent pas à ça alors que ça a des effets extrêmement concrets sur la vie de tous les jours?
Avant d'aller trop loin, toi, tu connais ton sujet, là, tu l'as écrit, puis t'en parles, Là, tu t'adresses à monsieur, madame, tout le monde, puis à moi en premier, là, OK?
C'est ça, justement, c'est le but de mon livre. C'est de dire, même si ça se passe bien loin, que ça a l'air compliqué, que ça a l'air écrit par des avocats, puis tout ça... Ça nous touche à tous les jours.
Bon, ben, vas-y, A, B, C, 1, 2, 3, je veux comprendre.
Alors, écoute, pour commencer, bon, si tu veux comprendre, c'est s'opposer aux traités commerciaux, OK? Ça ne veut pas dire qu'on est contre le commerce, puis ça veut pas dire, d'abord, quand je dis les traités, c'est le type des traités contemporains, là, qui sont en mode aujourd'hui, là. Pas l'idée qu'il y ait des traités, qu'il y ait des accords en général entre les pays.
Bon, l'ALENA, exemple, on prend celui-là qu'on connaît bien, là, l'accord de libre-échange en Amérique du Nord.
Oui. Ça veut pas dire que parce qu'on est contre un traité, même si la classe politique, en tous en cœur, vont nous dire « Ouais, mais le libre-échange, c'est toujours bon, c'est toujours positif, ça a juste des bons effets », comme si c'était une religion, là, finalement, qu'on n'a pas le droit de critiquer la religion officielle. Mais quand on regarde, en réalité... Ce n'est pas parce qu'on est contre des dispositions et qu'on est contre des traités en particulier, qu'on est contre l'ouverture puis qu'on est contre que les pays fassent des échanges entre eux, là. Dans le cas de l'ALENA, c'est intéressant que tu nous donnes cet exemple-là, parce que dans le cas de l'ALENA, ce qui est extrêmement dangereux, c'est qu'il y avait un chapitre dedans qu'on appelle de protection des investisseurs, OK? Et ça a été imité dans tous les traités de libre-échange par la suite. Puis ça, ça paraît encore une fois, ça sonne abstrait de même, mais quand on sait ce qu'il y a là-dedans, c'est extrêmement inquiétant. Parce que ce que ça dit là-dedans, c'est que une compagnie peut poursuivre un gouvernement s'il y a des politiques qui portent atteinte à sa capacité à faire du profit. Puis ça, c'est très grave. Je vais te donner un exemple. En Australie, ils ont mis en place des politiques anti-tabac. Ils se sont ramassés devant les tribunaux par les cigarettières. Au Québec, en 2013, quand le Québec a dit « c'est fini », l'exploration, puis qu'on aille chercher du pétrole et du gaz dans le coin du Saint-Laurent, dans le coin du fleuve Saint-Laurent, il y a une compagnie, Lone Pine Resources, qui a mis le Canada, l'État canadien, devant les tribunaux. Donc moi, je trouve ça extrêmement hot, puis il y a un paquet d'exemples comme ça, puis selon un rapport de l'ONU, il y a à peu près 60% des cas, le gouvernement est obligé de reculer en totalité ou partiellement sur ses politiques quand les compagnies l'ont mis devant les tribunaux. Moi, je trouve ça extrêmement grave parce que c'est vraiment extrêmement dangereux pour la démocratie. On veut décider de lois, on veut protéger l'être humain, on veut protéger la santé, on veut protéger l'environnement. Puis il y a des entreprises, donc des organisations qui ont pour but le profit qui peuvent mettre des États, des collectivités devant les tribunaux, puis renverser les lois qui vont avoir été démocratiquement votées, puis qu'on me dise que c'est pas dangereux par la suite.
Bon, tu prends Donald Trump actuellement, qui nous impose une sorte de droit compensatoire, OK?
Oui.
Ou des droits compensateurs, là, appelle-les comme tu veux, là, successivement. Dirais-tu que Donald Trump est à la solde de ces compagnies qui trouvent que le Canada et ses entreprises font du dumping ou font de la concurrence qui est déloyale?
Ben, c'est évident que Donald Trump, il prêche pour sa paroisse. Il y a ses compagnies chez lui. Il s'est entouré d'ailleurs d'un cabinet. Même, c'est intéressant le cas de Trump parce qu'il s'est fait élire avec l'appui des plus pauvres, de ceux qui en arrachent le plus possible, en disant « je suis anti-establishment », en disant « les financiers, les pleins de M », si vous me passez l'expression, je vais les mettre au pas, ils décideront plus ce qui va se passer aux États-Unis, moi je vais gouverner pour les petits, ceux qui ont de la misère. » Puis une fois élu, il s'est entouré des plus riches aux États-Unis. Donc c'est évident qu'une fois qu'il est là, il prêche pour sa paroisse, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les États-Unis, qui nous prônent le libre-échange à la grandeur de la planète, qui dit « couchez-vous, assoyez-vous, respectez à la lettre les traités sur l'ouverture commerciale », ben c'est intéressant de voir qu'eux-mêmes ne le pratiquent pas parce qu'ils voient que leur intérêt n'est pas là.
OK, en terminant, OK, je cite une partie de ce qui est écrit dans ton petit livre édité chez VLB à la fin, et je cite textuellement. Je vais recommencer. Savard Tremblay estime qu'aujourd'hui, la sauce ne prend plus. Entre les révoltes populistes des électeurs qui refusent le maintien du statu quo, les crises successives qui ont mis au jour les errements des institutions économiques mondiales et la prise de conscience collective des déprédations des grandes entreprises transnationales. Là, c'est bien compliqué, mais là, j'arrive au fait. Là. Ils croient discerner les signes qu'un renversement démocratique du système est non seulement souhaitable, mais possible, à condition, bien entendu, d'être porté par un projet politique cohérent et humain. Es-tu en train de prôner la révolution?
Écoute, d'une certaine façon, ça pourrait paraître être une révolution de dire, regarde, le profit, c'est bien beau, mais ça devrait jamais être au détriment de l'être humain. Ça peut être une révolution à dire aujourd'hui, tellement ça paraît difficile à envisager. Mais dans les faits, c'est modéré. Là. C'est pas quelque chose d'extrême. Au 20e siècle, jusqu'à peut-être aux années 70, c'était de même qu'on vivait. On avait des gouvernements qui pouvaient, quand le peuple décidait qu'il voulait faire ça, connaître sa volonté, on réussissait à adopter une mesure. S'il y avait quelque chose qui faisait pas notre affaire, s'il y avait quelque chose qui mettait en danger la population, il y avait les gouvernements pouvaient agir, les peuples pouvaient se prononcer. Tu sais. Il y avait une certaine culture démocratique. Là, aujourd'hui, on peut plus faire ça parce que tout est écrit dans des traités, tout est écrit d'avance. On n'a pas le choix, on est obligé de suivre une politique permanente qui est imposée. Et si ça fait pas l'affaire des grosses compagnies multinationales qui ont beaucoup d'argent, qui ont des armées d'avocats, puis qui souvent n'ont pas les mêmes, qui souvent sont plus puissantes même que les gouvernements, elles peuvent renverser ce qu'on va avoir adopté comme loi, qu'on va avoir pensé tous ensemble pour notre propre intérêt. Et ça, vraiment, je trouve ça extrêmement inquiétant.
Et es-tu content d'avoir pu démêler ça avec moi en ondes?
Oui, est-ce que c'est plus clair, mon cher Robert?
C'est un petit peu plus clair. Voilà, la réflexion est en route maintenant. C'est ça à quoi ça sert des émissions comme la mienne. On se repart.
Absolument. Puis là, on invite bien entendu les gens à, s'ils veulent approfondir, à lire mon petit essai. C'est court, ça se lit bien, c'est simple à comprendre. On invite toujours aussi, pour être cohérent avec ce que je vous dis, les gens à aller dans des librairies indépendantes, des petites librairies du coin, plutôt que dans des magasins de grande surface.
Simon-Pierre Savard-Tremblay, Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange. Je vois déjà là un film à grand déploiement. Steven Spielberg devrait te contacter très bientôt. Moi, je vois quelque chose là, un ouvrage assez étonnant sur le sens de l'humanité là-dedans. As-tu été approché pour un scénario de film? Pas encore.
Peut-être une série. Ça serait quand même ironique que j'aille dénoncer les puissants puis les grosses entreprises à Hollywood.
Oui, peut-être. Ou avec Fabienne Larouche. Moi, je verrais peut-être une quotidienne, là. Après mettons, après District 31, Despot 66. Salut.
Et toi, qu'est-ce que tu ferais dans l'émission? Là?
Moi, honnêtement, là, je servirais le café parce que écoute, on s'en reparle-tu jeudi du rôle que je pourrais tenir dans Despot 66?
Certains, je te classerai comme démêlé si t'es convaincant.
Salut.
À jeudi. Salut.
11h38, Simon-Pierre Savard-Tremblay.